c'est Explose le cadre, le podcast qui booste votre niveau de confiance pour vous aider à prendre votre place. Chaque mois, je questionne des femmes inspirantes que je nomme affectueusement les parfaites. Ces femmes qui ont su dépasser leurs peurs, s'affranchir du regard des autres et gravir des montagnes pour réaliser leurs rêves. Elles partagent avec nous leur vécu, les expériences marquantes de leur vie et leurs meilleurs conseils. Explose le cadre, c'est plus qu'un podcast. C'est un show enrichissant et divertissant qui vous aide à passer concrètement à l'action pour devenir une femme plus confiante, forte et audacieuse. L'objectif ici est de revisiter nos croyances limitantes pour littéralement exploser notre cadre. Ici, pas de chichi, nous sommes là pour bâtir notre avenir et concrétiser nos rêves. Alors, c'est parti! Moi, c'est Christelle. J'ai créé ce podcast avec pour ambition de vous faire sortir de votre coquille et de vous aider à vous reconnaître et à considérer vos valeurs. J'ai, depuis ma plus tendre enfance, manqué cruellement de confiance en moi et d'estime de moi. Mon jeu préféré était celui de la souris. Vous savez, la fille qui rêve d'être invisible aux yeux des autres. Mais pas facile quand on a un profil atypique. Je me dévalorisais sans cesse et me jugeais durement, que ce soit physiquement comme intellectuellement. Mon dicton préféré était « je suis trop nulle ». Mais j'ai depuis eu la chance de découvrir à l'âge de 11 ans le développement personnel au travers de la sophrologie. Et je dois dire que ça a transformé ma vie. Après des années et des années de travail sur moi, je suis de plus en plus sensible à la souffrance des femmes qui m'entourent et qui vivent encore ce sentiment dévastateur. Aujourd'hui, je souhaite synthétiser tous ces apprentissages au même endroit et sous une forme ludique, mais surtout sans prise de tête. Voyez cette capsule comme un bon moment entre amis, un bon verre à la main et une ambiance musicale funky. Alors maintenant que le cadre est posé, je vous propose de commencer. Bienvenue, vous écoutez l'épisode numéro 15. En première partie de cet épisode, nous recevons Muriel Waro de la boutique Les Secrets d'Agapé. C'est un immense plaisir. En deuxième partie, mon acolyte Sylvain, coach de vie, nous présentera son avis, ses conseils et ses ressentis pour appliquer dès aujourd'hui les enseignements prodigués par notre invité. Et enfin, je conclurai sur la rubrique plan d'action dans laquelle je vous propose 3 étapes claires et simples à mettre en œuvre en attendant le prochain épisode. Alors n'attendez plus et comme le disait Oscar Wilde, agissez et prenez votre place parce que les autres sont déjà prises. Bonjour Muriel, bienvenue dans Explose le cadre.
Bonjour Christelle, comment vas-tu?
Je vais très très bien, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui.
C'est un plaisir partagé.
Super, je suis trop contente. Donc je commence toutes mes interviews par la même question, qui est plutôt, on va dire, une prise de température qui se révèle être une prise de confiance. Dans ta vie de tous les jours, sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau se situe ta confiance en toi?
Waouh, quelle question. Alors, je dirais que je mettrais 7. Et du coup, je dois expliquer pourquoi.
Si tu veux, oui.
Ok. Alors, j'ai pas particulièrement confiance en moi, mais un peu comme toutes les filles, je pense, on est passé par cette période où on se pose plein de questions et tout. Mais j'ai confiance en fait en mes décisions dans la mesure où je compte tout le temps sur, tu sais, cette assurance. Donc, à chaque fois que je prends une décision, si je sens que dans mon cœur, c'est posé, eh ben en fait, j'avance. Et la peur ne m'a jamais empêchée de faire les choses. Donc, du coup, je dirais que à chaque projet que je fais, j'avance avec assurance parce que je me dis, c'est pas la peur qui dirige, c'est pas le doute qui dirige, c'est juste, est-ce que dans mon cœur, j'ai la paix? Ben, si j'ai la paix, j'y vais. Donc voilà, je mettrai pas 10 parce que ben ce serait assez prétentieux et puis mon but est à chaque fois que j'ai des soucis ou des problématiques, je me pose et j'essaie de savoir pourquoi et de trouver une solution. Donc du coup, ouais, j'avance avec assurance. Donc ouais, c'est pour ça que je mettrai 7 sur 10.
Génial. Pour continuer à faire connaissance, je te propose de faire un portrait chinois. Donc, si tu étais un dessin animé.
Cendrillon.
Si tu étais une mauvaise habitude.
Procrastination.
Si tu étais un sport.
De la danse.
Si tu étais un livre.
Le parfum.
Si tu étais une pièce de la maison.
Ma chambre.
Si tu étais un élément.
Le vent.
Si tu étais une cause.
La liberté.
Si tu étais un animal.
Je sais pas. Une lionne. Ouais, une lionne.
Et si tu étais une muse?
Là, je sais pas. Là, c'est une colle. Je sais pas.
J'ai ma petite idée. Je t'aurais répondu la oui. Muse de l'amour.
D'accord. Et pourquoi?
Mais parce
c'est moi qui pose des questions maintenant.
Voilà, parce que justement, j'ai envie de te poser plein de questions à ce sujet. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux nous partager quelle humaine es-tu et que fais-tu dans la vie?
Alors, donc du coup, je m'appelle Muriel, j'ai 46 ans. Alors, je le dis parce que j'ai tellement eu de mal à assumer mon âge qu'à chaque fois qu'on me demande de me présenter, je donne mon âge pour être sûre que je me le mets bien dans le crâne. Donc du coup voilà, je suis la maman de deux beaux garçons qui sont juste magnifiques, donc qui ont 22 ans et 21 ans, qui habitent à Paris. Je suis mariée à Michael depuis 25 ans et du coup on a fêté nos 25 ans de mariage en décembre. Et j'ai été enseignante pendant 15 ans et j'ai ouvert la boutique Les Secrets d'Agapé, donc je vends des robes de mariée et on va fêter la 5e année. Voilà, donc j'ai démissionné pour ouvrir cette boutique et j'ai démissionné 2 ans avant l'ouverture de la boutique et véritablement pour créer la boutique en fait. Quand j'ai posé ma démission, je savais que j'allais ouvrir la boutique.
D'accord. Et est-ce que tu peux nous partager ton parcours justement professionnel un peu plus en détail qui t'a amené à ouvrir Agapé?
Alors, donc du coup, j'ai un bac littéraire. J'ai toujours aimé travailler, j'ai toujours aimé apprendre, j'adorais le stress des examens et tout ça. Donc du coup, après le bac, j'ai poursuivi à l'université, donc je devais partir en métropole et j'ai rencontré mon mari et en fait, je me suis dit non, je pars pas. Donc je me suis lancée dans des études espagnoles à Saint-Denis et donc j'ai passé un DEUG à l'époque, donc c'était 2 ans et puis au bout de la deuxième année, j'ai plus voulu continuer en espagnol, donc j'ai fait une licence de sciences de l'éducation. Et voilà, donc j'ai relativement toujours réussi et tout ça. Donc j'ai passé le concours d'Instit à l'époque en 2000, donc en candidat libre. Donc j'ai été reçue et j'ai commencé à travailler. Et en fait, j'ai toujours aimé mon travail. Alors ça, c'était assez impressionnant parce que je me levais le matin, mais j'adorais aller bosser, j'adorais me retrouver face à des élèves, de voir qu'on partait d'un point A et on arrivait à un point B et qu'à la fin de l'année, on avait toujours appris quelque chose avec eux et qu'eux également avaient appris avec nous. Mais par contre, j'ai toujours su que je ne ferais jamais un pot de retraite en Birkenstock, tu sais, dans la cantine ou le réfectoire de l'école, en souhaitant la bienvenue aux nouvelles collègues et toi, tu quittes le truc, tu fais ta révérence, voilà. Et du coup, j'ai repris mes études espagnoles au bout de 5 ans dans l'enseignement. Et là, je suis partie au Mexique avec mon mari et mes enfants. Donc, on a habité 1 an du côté de Guadalajara. Et là-bas, donc, je suis allée à l'université. Les enfants étaient scolarisés dans une école française. Et donc, je suis rentrée et j'ai, en même temps qu'en étant enseignante, parce que du coup, j'avais posé un congé d'1 an. Donc, je suis rentrée. Donc, j'étais obligée de rentrer. Je ne voulais absolument pas rentrer. Et mais j'étais obligée et du coup en rentrant, je me suis dit OK, je passe mon mémoire. Donc j'ai soutenu un mémoire sur le positionnement des femmes, tu sais, à la frontière mexicaine-américaine où il y a tout le trafic d'organes, de prostitution. Donc j'avais soutenu un mémoire là-dessus qui était j'avais adoré cette étude. Et par contre, après, je me suis dit, OK, mais moi, je ne vais pas devenir prof parce que je vais me retrouver avec des petits élèves au collège. À cet âge-là, c'est un peu compliqué. Ils ne savent pas trop qui ils sont, etc. J'avais envie soit de partir sur du lycée, mais je savais qu'en passant le CAPES, en débutant, je n'aurais pas eu des lycéens. Donc, je suis retournée à l'école primaire et encore pendant quelques années. Et en fait, j'ai toujours cru profondément au mariage, tu vois. Donc, j'ai un mari que j'adore. À chaque fois qu'il me regarde, je me sens belle. J'ai pris 20 kilos depuis que je le connais, mais il est toujours en train de m'encourager, tout ça. Et je me suis dit, mais purée, mais en fait, j'ai envie de faire un truc où je me lève le matin, je kiffe, où je peux parler, en fait, de ce que moi, je vis au quotidien avec mon mari. Et puis, c'est travailler dans un milieu. Et du coup, c'est arrivé comme ça, un vendredi soir. Et j'ai pris un papier, j'ai pris un stylo et j'ai écrit la boutique sur une feuille. Et je me suis dit, OK, par contre, je le fais uniquement si je le soutiens de mon mari. Donc, je lui en ai parlé. Le soir, il me dit, écoute chérie, ça ne va pas être possible parce qu'on n'a pas les moyens là d'ouvrir une boutique. On peut pas, tu vas démissionner, donc tu vas perdre une situation et tout ça. Et en fait, le lendemain matin, il s'est levé et il me dit, écoute, voilà. Alors, nous, on est croyants, tu vois. Donc, il me dit, écoute... j'ai vraiment sur le cœur que je pense que tu peux y aller. Et en fait, le lundi matin, ça c'était vendredi soir, samedi matin il me dit ça. Dimanche, je fonce sur internet, je regarde tout ce qu'il y a sur la robe de mariée, s'il y a des salons et tout. Et le lundi matin, j'appelle mon syndicat et je leur dis voilà, donc mon projet, j'ai décidé que j'allais démissionner et ouvrir une boutique. Et en fait, le syndicat me dit, mais en fait, ça va pas être possible parce que c'était une période un peu compliquée. Enfin, au niveau du ministère, ils acceptaient pas forcément les démissions. Enfin, c'était pas si simple. Et je leur dis, écoutez, c'est pas grave, je vais voir l'inspecteur et je lui parle de mon projet. Donc, le lundi midi, ça c'était avant. Donc, projet vendredi, samedi, mon mari valide. Dimanche, je vais sur Internet. Le lundi matin, j'appelle l'inspecteur. Lundi midi, j'ai rendez-vous. Et lundi soir, je décide de démissionner. J'ai pas repris en avril. Enfin, c'était en avril. Et il devait m'inspecter et il me dit, écoutez, voilà, qu'est-ce que je peux vous faire pour vous être aidante? Et du coup, il m'a laissé partir au salon de Paris. Il y avait un salon du mariage à Paris. Ça a été un peu la croix, la bannière parce qu'on ne rentre pas dans un salon pro si on n'a pas de sirette, etc. Mais je me suis, on me fermait des portes, je passais par la fenêtre. On me fermait la fenêtre, je repassais par l'autre fenêtre. Finalement, j'ai atterri au salon du mariage. J'ai rencontré le directeur du magazine Marion Nous. On a fait des super rencontres. On a passé 3 jours. Et là, je suis sortie. Je me dis, OK, c'est bon. Et du coup, en juillet, j'ai démissionné. Et par contre, tu sais, quand tu bosses 15 ans dans l'éducation nationale, tu fonctionnes. Il m'a fallu défonctionner. Tu sais, perdre des habitudes de gérer ma vie, etc. Donc, ça m'a pris 2 ans pour monter le projet. Et du coup, en avril 2018, on a ouvert la boutique. Mais 2 ans pour monter le projet, créer tout, passer les commandes et tout ça. Et voilà.
Super. Où j'en suis. Et quel message tu souhaites faire partager, que tu souhaites partager au travers d'Agapé, des secrets d'Agapé?
Alors en fait, je crois vraiment je crois profondément à l'amour, je crois profondément à la famille, je crois profondément aux valeurs. Et je pense que véritablement, le mariage, c'est quelque chose, tu sais, qui t'engage, en fait. C'est pas qu'un moment fun. C'est une histoire que tu construis. C'est juste la valorisation à un instant T de toute une histoire, tu vois. Et le jour du mariage. Et je me dis, mais finalement, ce que tu vis dans les préparatifs du mariage, c'est-à-dire un peu la pression, les doutes, les challenges, etc. Finalement, c'est ce que tu vis dans ta vie de couple. Tu vois, tu te poses plein de questions, tu dois communiquer avec l'autre, tu dois écouter l'autre, tu ne dois pas t'oublier non plus. Et tout ça, je me dis, mais finalement, j'ai l'impression de vivre un mariage au quotidien, tu vois. Et je trouve ça géant parce que je me dis, mais... Et puis, quand les gens, ils me parlent de mariage, mais je leur dis, oui, mais moi, je sais de quoi vous parlez. Moi, je le vis au quotidien. Et je sais aussi ce qui fait que mon mariage a tenu. tu vois, avec ma, tu sais, tu te maries, tu es, ok, on est éperdument amoureux au début quand on épouse la personne que l'on aime, c'est parce qu'on vient de nous rencontrer, on a quoi, 5, 6, 7 ans. Bon, après, t'as des couples qui ont des histoires de vie différentes, mais globalement, il y a pas d'engagement. Mais à partir du moment où tu t'engages, tu es dans un autre registre. Et je pense que, de pouvoir profondément dire à mes maris, mais je comprends ce que vous vivez, je peux comprendre vos questions. Et oui, on arrive à la maison fatigué le soir, on n'a pas forcément envie de cuisiner, mais on a un mari, donc on va le faire, ou il nous attend, il fait à manger avec nous. Mais tu sais, tout ça, en fait, je le vis. Et j'ai l'impression, en fait, de faire partager. Je suis légitime, en fait, je me sens légitime de parler du mariage parce que je le vis. Et que je le vis bien, et que on a été intentionnel, mon mari et moi, dans le fait de faire durer notre mariage, puisqu'on est passé comme tout le monde par des moments compliqués. Mais la seule chose qui nous a tenus, c'est que nous, on croyait profondément à ce mariage-là. Tu vois. Et je pense que moi, je peux le faire. Je parle en connaissance de cause quand j'en parle à mes mariés. Mmh. Tu vois. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est que je travaille dans quelque chose que je vis et que j'expérimente, en fait, tu vois. Et ça, je trouve que c'est un cadeau, en fait. C'est autant un cadeau pour elles que pour moi. Donc, quand elles ont des doutes, je peux dire, OK, je suis passée par là. Quand elles se posent plein de questions, OK, je comprends, etc. Tu vois ? Donc, je trouve ça fabuleux.
Quelles sont pour toi les valeurs de l'amour, justement ? Ce que ça incarne ?
Je pense, déjà, la fidélité, mais tu sais, la fidélité aussi avec qui tu es. Ok, on s'engage, ok, être fidèle l'un envers l'autre, etc., on est d'accord. Mais je crois aussi que on est fidèle aussi à qui on est dans notre relation. On est fidèle à ce qu'on croit, en fait, parce que quand on se marie, on croit profondément. Personne se dit, je me marie, mais je vais divorcer dans un an. En fait, on n'a jamais rêvé de se séparer. On n'a jamais rêvé. Tout le monde rêve du « je me marie et on va y vivre heureux et y avoir beaucoup d'enfants », tu vois, qu'on le veuille ou non. Même si des gens te disent parfois qu'ils se marient parce qu'ils doivent régler des papiers ou des choses comme ça. Mais c'est tellement engageant que tu es obligé d'y croire, tu vois. Donc, je pense qu'il y a cette fidélité par rapport à ton engagement, cette fidélité par rapport aux promesses que tu as faites à l'autre et puis aux promesses à laquelle toi, tu t'es faite, tu vois, que tu t'es fait à toi-même. Donc, il y a ça. Il y a la résilience aussi, de se tenir de tenir ferme dans les tempêtes, et de se dire, OK, en fait, qu'est-ce qu'on apprend à chaque fois qu'on est confronté à un souci? Qu'est-ce qu'on veut mettre en place, pour lutter contre certaines difficultés? Tu vois, nous, on a 25 ans de mariage, on a eu des moments un petit peu compliqués. Là, il y a quelques temps, on est passé par un truc vraiment très, très difficile. Et en fait, la seule chose qui nous a tenus, c'est parce qu'en fait, on s'est regardé un matin, et puis je dis à mon chéri, je dis, mais là, la seule chose qu'on a à faire, c'est faire bloc, en fait. C'est vraiment ça. Donc, du coup, je pense vraiment qu'il y a cette résilience, il y a la fidélité, il y a, tu sais, ce désir d'aller toujours plus loin, tu vois. Et je pense que c'est vraiment ça, quoi. Enfin, moi, je le vis comme ça. Et je le ressens comme ça. Tu vois.
Super. Donc, tu nous disais que ça, en décembre, vous avez fêté vos 25 ans de mariage.
Oui.
Vous avez renouvelé vos vœux.
C'est vrai. C'était génial.
Quels ont été les ingrédients qui ont cimenté votre amour et votre complicité pour dépasser les difficultés dont tu nous parlais ?
Alors, c'est tout bête. Alors, il y a quelque chose qui m'a toujours tenue, en fait. Tu sais, quand j'étais jeune, adolescente, donc moi, comme je te dis, j'ai 46 ans, j'ai vécu à la plaine des Cafres, dans un petit village, on était un petit collège, c'était un tout petit truc, j'ai fait ma scolarité dans une toute petite école du 17e, tu vois, dans les Hauts, et c'était très rare les divorces, très très rare. Dans ma famille, par exemple, je n'en ai pas de divorcés, c'est assez marrant, tu vois. Et en fait, quand je suis arrivée au lycée, j'étais en seconde, et dans ma classe, un jour, une fille arrive et elle était effondrée. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Et elle me dit, mes parents divorcent. Et là, je me rappellerai toujours de ce jour-là. Et je me suis dit, à ce moment-là, je ne serai jamais une divorcée. J'avais 14 ans, ouais, 15 ans. Et en fait, je crois que c'est ce qui m'a toujours tenue. C'est fou, ça. Parce que je comprends, hein, je comprends qu'on puisse divorcer. Je comprends qu'on puisse être mal marié. Je comprends que quand l'autre n'est plus la personne qui vous tire vers le haut, qui n'est plus la personne qui vous valorise, qui n'est plus la personne pour qui vous êtes sa priorité. Je l'entends, tu vois, j'ai aucun souci avec ça, même si je suis croyante. Je crois qu'effectivement, on peut divorcer, même si je dirais que les religions ne le valident pas forcément, tu vois. Donc, dans cette idée-là, j'ai aucun souci avec ça. Mais par contre, moi, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas en arriver là, tu vois. Et régulièrement, quand on a eu des petits moments, des passages à vide avec Michael, je me suis toujours dit ça. Je ne serai jamais une divorcée. Et c'est assez marrant parce que je pense que c'est vraiment ce qui m'a tenue. Et un jour, mon mari me disait, mais en fait, je crois que cette phrase que tu t'es toujours dite, c'est vraiment ce qui nous a tenus. Parce que même les fois où j'avais envie de prendre mes affaires et de partir, parce que j'ai eu une ou deux fois ce désir-là, parce que bien entendu, tu te prends la tête, tu te comprends plus, t'as l'impression que voilà. Je me suis dit, OK, mais qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que avoir raison est aussi important que la relation? Tu vois, finalement, quand on se prenait le chou ou que c'était compliqué, je me dis, OK, je savais que j'avais raison. D'accord. Comme toutes les femmes. Mais il fallait juste que j'attende qu'il soit prêt à entendre. Tu vois, donc du coup, quand on se disputait, en fait, il n'y avait pas vraiment de dispute parce que je ne répondais pas. Je me disais, il n'est pas prêt à entendre ce que j'ai à lui dire. Je ne le lui dis pas maintenant. Je laissais passer. Il se calmait ça se calmait. La situation entre un peu dans l'ordre. Et à un instant T, quand je sentais vraiment, tu sais, cette impression dans le cœur, tu te dis, OK, c'est maintenant. Et bien là, j'ai abordé le sujet. Et si je sentais qu'il n'était pas à nouveau prêt, j'avais lâché mon petit paquet. Je sais que ça allait quitter sa tête, aller à son cœur. Et après, ça allait revenir. Et en fait, on a toujours fonctionné comme ça. Donc, je pense que c'est vraiment, vraiment ce qui nous a tenus. Tu vois, ce truc-là. Alors, je ne sais pas si c'est une solution miracle. Hein. En tout cas, en tant qu'expérience, ça a fonctionné.
Tout à l'heure, tu disais qu'il fallait l'accord de ton mari pour quitter ton emploi et ouvrir ta boutique. Est-ce que tu dirais que, de par ton expérience, d'avoir une activité entrepreneuriale est un risque pour un couple?
Je pense que oui, parce que, oui, j'en suis sûre, en fait. Parce que quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu sais, tu donnes naissance à un autre enfant. Et si la personne, elle n'a pas compris les enjeux de cette enfance, de cet enfant que tu es en train de mettre au monde, c'est pas possible. Quand tu ouvres ton entreprise, tu nages à contre-courant, tu es tout le temps dans les vagues, tu sais pas où tu vas. Tu t'avances à l'aveugle, tu expérimentes des choses, tu as pas d'heure. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un mari qui a toujours, mais toujours été là. Il y a des soirs où je rentrais à 9h, les premières années, régulièrement, je rentrais à 21h. Donc, j'arrivais à la maison, j'avais mon assiette qui était posée sur la table, j'avais mon verre de vin. Quand je lui disais, il faut que je parte en voyage, OK, pas de souci, il n'y a pas de problème, on prenait les billets et tout ça. Il a investi, tu vois, dans cette boutique. Quand je fais des défilés, on en a fait un samedi, mais il est là tout le temps. Samedi, par exemple, il est arrivé en retard au défilé et en fait, j'ai pas pu commencer. J'ai fait attendre au maximum. J'ai dit non, on commence pas. Et puis, dès qu'il est arrivé, c'est bon, j'ai appuyé sur le bouton pour commencer, tu vois. Et vraiment, parce que même quand il y a des fois où tu as la tête dans le guidon, tu sais, il y a des soirs où tu as des gros soucis, par exemple avec une livraison qui n'arrive pas, tu as des mariés qui attendent leur robe et tout. Je me souviens d'une fois où ils ont perdu un de mes colis, ça a été catastrophique j'avais des mariés qui attendaient leur robe et tout. Et en fait, il a cette paix, tu sais, il a ce truc à me dire, mais ça va aller, t'inquiète pas. Bon, après, voilà, il me dit, mais Dieu est là. Il peut pas te lâcher, il peut pas t'avoir mis un projet sur le cœur et te lâcher maintenant. Donc non, et tu vois. Et là, il m'a accompagnée sur un défi, sur un événement à Paris il y a 3 semaines. J'avais très peur de lancer les robes de soirée par exemple. C'est quelque chose qui m'a toujours fait peur. Et là, il me regarde, il me dit, mais on peut y aller. Et je lui dis, mais j'ai même pas les plans de la boutique, j'ai pas d'espace. Et le temps que je discute avec un fournisseur, il avait dessiné sur la table le plan, en fait, de la nouvelle salle. Il me dit, ça y est, tu as vu, là, t'as ta salle. Donc, c'est bon, on peut commander. Tu vois? Mais tout seul, tu peux pas le faire. C'est pas possible. Et puis, il y a des fois où, j'arrive et j'ai peur. Ouais, voilà. Et il est là. Et il me dit, je suis là, t'inquiète. Et du coup, bah, je l'embarque dans mes projets, tu vois. Donc, il est... Ouais, je pense que si t'as pas ça, c'est compliqué. Parce qu'ils peuvent pas comprendre les enjeux, tu vois. Donc, et puis le fait de même que pendant les 2 années où moi j'ai préparé le projet, enfin où j'ai ouvert en fait, pas les 2 années où j'ai préparé, mais la première année surtout, les enfants passaient le bac et en plus, pendant 2 ans, je les ai déscolarisés, les enfants. Quand moi j'ai démissionné, je les ai enlevés de l'école, donc je m'occupais, ils étaient à la maison. Et la dernière, enfin l'année où j'ai ouvert, en fait, ils ont été à nouveau scolarisés pour le bac et bac de général et le bac de français de l'IAM du coup. Et non, seconde et première, et ben en fait il fallait la chercher à l'école et tout ça, au lycée et tout, voilà. il s'en est occupé, tu vois, et j'ai jamais eu de reproches. Et les fois où il sentait que j'avais trop la tête dans le guidon, ben lui-même il dit, écoute, stop, tu déposes ton téléphone, allez, on va marcher un peu sur la plage et tout. Et en fait il m'a vraiment appris à prendre le temps, à garder la priorité sur la famille. Et là, cette année, il a décidé que j'allais plus passer de temps avec lui. Donc, il m'encourage à embaucher là, pour que je puisse partir un peu plus avec lui et puis prendre plus de temps aussi pour les enfants maintenant qui sont à Paris, d'aller les voir plus souvent, tu vois. Donc, ouais, je pense que ça peut être un challenge d'avoir un mari qui comprend pas tout.
Est-ce qu'aujourd'hui encore, dans ta vie d'entrepreneur, tu rencontres des challenges et des difficultés?
Oh, du ciel, oui. Parce que c'est plus les mêmes peurs, tu vois, c'est plus les mêmes challenges parce que ben tu as pris de l'expérience et tout ça. Donc ceux qui t'inquiétaient au départ t'inquiètent beaucoup moins, tu vois. On arrive à gérer maintenant les délais de livraison, on arrive à anticiper et parfois à chaque problématique qu'on rencontre en boutique, En fait, on a vraiment cette capacité parce que maintenant on est une équipe, tu vois, on est 5. On se met autour d'une table et ce matin encore, on a fait 1h30 de réunion parce qu'on a été confronté à des challenges. On se pose, ok. Bon, en fait, les filles, il n'y a pas de problème là. En fait, là, c'est juste une opportunité de grandir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, ouais, ces challenges à chaque fois, tous les jours, tu vois. Et puis, tu sais, il y a un truc dont j'arrive pas trop à me débarrasser, mais qui finalement est un moteur pour moi. C'est la peur de l'échec. Tu vois? J'ai super peur de me planter. Parce que tu as des entreprises qui ferment, tu vois. Et c'est quand même une réalité. Donc ça, c'est quelque chose qui me fait super peur. Et ça, c'est un truc contre lequel je dois régulièrement lutter. Mais ce n'est pas ce qui m'empêche d'avancer, par contre, tu vois. Mais voilà. Toujours des gros challenges, ouais. Puis ben, quand tu grandis, tu passes de 50 mètres carrés. Là, on est à 250, tu vois. Et puis, il faut augmenter les équipes. Tu sais, il faut que tout le monde s'entende. Tout le monde ait la même vision. Donc du coup, ouais, c'est des challenges, ça.
Et quand tu as démarré ton projet, tu étais toute seule ou tu as pu embaucher dès le début?
Alors en fait, à la base, je devais le faire toute seule et je m'étais dit, bon, ben écoute, si je vends une robe par mois, ça sera déjà sympa. Et en fait, ben, du coup, il y a Mathilde que tu connais,
oui.
Que je reconnaissais. En fait, on avait travaillé sur un projet associatif et j'avais dit à mon mari, mais tu seras obligée d'embaucher quelqu'un tout de suite, en fait, parce que si tu veux partir au salon, tu ne peux pas fermer la boutique. Qui tu mets dedans, enfin, c'est pas possible. Une boutique peut pas être ouverte aujourd'hui, fermée d'une semaine, enfin, bref. Et donc, on a travaillé sur un projet associatif avec Mathilde. Donc, du coup, je lui ai proposé de travailler avec moi. Et en fait, on a tout de suite eu la même vision. Donc, on a été toute seule pendant 2 ans. Et après, on a commencé à voir autrement.
Aujourd'hui, donc, tu disais que tu aimerais retrouver un équilibre de vie un peu plus orienté couple que boutique. Comment sont rythmées tes journées aujourd'hui et comment elles vont être rythmées demain?
Alors, en ce moment, c'est je travaille du lundi au samedi. Donc, j'ai que le dimanche que pour me reposer. Et un des challenges, c'est de ne pas rester à la maison. Parce que sinon, si ton mari, il est tout le temps à la maison, enfin, il a ses activités, mais lui, il est un peu plus cool. Donc en ce moment, c'est ça. Et l'idée, ça serait que ça soit toujours ça quand je sois là, par contre. Parce qu'après, lui, tu sais, il a une activité sportive le soir et qui est collée à la boutique. Donc, le lundi, mardi, mercredi, il finit à 21h. Donc, ça ne me dérange pas de rester là. Et puis, quand il a fini, il m'appelle. Il me dit, écoute, on rentre. Donc, ça, c'est pas trop problématique. Là, ce qui va changer, c'est que je vais partir, en fait, plus souvent. Donc là, je pars pour 3 semaines en juin en vacances. Donc, on va fêter les 22 ans de Mathéo. On a pris une location en métropole. Et après, on part loin, 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 loin. On part à Cuba.
Oh.
Et c'est trop bien, hein, je suis trop contente. Et donc, ça va être ça, en fait, de pouvoir partir, tu sais, ponctuellement et de laisser la boutique tourner. Ça va être plutôt ça. Mais quand je serai là, je serai dans ma boutique parce que j'ai l'impression que c'est ma maison.
En plus, elle est très belle.
Je suis d'accord. Oui, c'est vrai que tu la connais.
Donc, voilà. Est-ce que tu as un outil favori qui t'aide dans ton organisation quotidienne?
Alors, je suis toujours en train de le chercher, figure-toi. Parce que, comme je te disais, moi, mon gros, enfin, j'ai une tendance à procrastiner. Et donc, ça, c'est une lutte de tous les jours. En fait, j'aime beaucoup travailler. Je fonce, mais je fais tout à la fois. Le problème, c'est que bon, je fais tout à la fois et en même temps, il y a des fois, je remets à demain ce que j'ai pas envie de faire aujourd'hui. Si bien que il y a plein de choses. Donc, du coup, j'essaie de trouver, tu sais, des moyens de lutter contre ça. Donc, d'embaucher, par exemple, quelqu'un au bureau, ben, ça m'aide à faire des papiers que moi, j'aime pas faire, tu vois. Donc, voilà. Et là, je suis en train de chercher un espèce d'organiseur parce que j'ai besoin de ça. Donc, si on a des plannings, donc tous nos plannings sont blindés sur l'ordi, on travaille en réseau. Par contre, d'un point de vue personnel, je suis à la recherche. Donc, je teste des planeurs, là. Je teste. Donc, tous les ans, je m'en achète 2-3. Je regarde, je note et puis je vois que ça fonctionne pas. Donc, je fous à la poubelle. Et puis, je suis toujours à la recherche d'un outil, tu sais, qui soit efficace, mais qui me corresponde, en fait. Tu vois. Donc, ça se trouve, je vais devoir me l'inventer moi-même.
Qu'est-ce que tu aimerais avoir dans ce planeur?
Des alertes. Sauf que sur un papier, c'est compliqué parce que j'aime écrire. Donc, il n'y a pas d'alerte. Et puis, tu sais, en fait, quelque chose qui me permet d'avoir une vision globale, en fait. Tu vois. Qui me permettent d'anticiper, tu sais, les choses, tout simplement, tu vois. Et sauf qu'en fait, il faudrait que j'arrive à jongler et à faire des entrées, tu sais, que ça soit un aspect financier, quand tu fais des projets, tu sais, prévoir sur le temps, parce que là, par exemple, je dois absolument revoir tout le site internet. Et j'arrive pas à me le programmer, en fait. Mais par contre, je sais que j'ai des deadlines. Il faut absolument que je ponde le site, là, dans moins de 6 mois. Et donc, il me faudrait quelque chose, tu sais, qui arrive à me donner une vision globale. Mais je sais pas si c'est ce qu'il me faut, hein. J'en sais rien, en fait. Mais dans l'idée, j'ai l'impression que c'est ça.
OK. Super. Voilà. Je passe à la question tabou.
Qui est?
Est-ce que tu aurais une pratique ludique à partager à nos auditrices pour les aider à ranimer la flamme dans leur couple?
Oh là là. Oh là là. Alors, qu'est-ce que je dirais? Je sais que ce qui fonctionne chez nous, on aime bien aller à l'hôtel. D'être, tu vois. Ouais, ça, on aime beaucoup. D'aller à l'hôtel, et puis, mon chéri, par exemple, il est super. Il aime les moments de qualité et les services rendus. Tu vois, on n'a pas le même langage de l'amour. Moi, je suis très cadeau. Moi, j'aime les cadeaux. J'aime les cadeaux. En fait, je mets et j'ai appris à aimer les services rendus parce que comme mon mari, il aime les services rendus. Et ben, du coup, il me rend beaucoup de services, tu vois. Donc, j'ai appris à apprécier ça et à me dire, ok, c'est bon, après, il a plein de qualités, il me donne des cadeaux et tout ça, il me gâte, il me valorise et tout ça. Mais pour le coup, comme il aime les temps de qualité et il aime les services rendus, ben donc je sais que régulièrement, il va aimer qu'on aille à l'hôtel, qu'on prenne un temps de massage et qu'on se... Voilà, donc ça, c'est... Et je sais que ça a un effet assez sympa sur nous. J'irai pas plus loin. J'irai pas plus loin.
Comment vois-tu ton couple dans 25 ans?
Ben, j'espère encore plus qu'on soit encore plus fusionnel que maintenant. Et en fait, tu sais, ça me fait peur parce que je me dis dans 20 ans, 25 ans, ben, je sais pas si l'autre sera encore là, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui nous fait super peur à Mika et à moi. C'est vraiment quelque chose qui nous fait peur. Et la dernière fois, il y a un office qui nous dit mais maman, en fait, s'il faudrait choisir lequel doit partir avant, ben, je sais pas ce qu'on fera de papa. Hein. je sais pas ce qu'on fera de lui si tu pars avant, hein. Parce que sincèrement, et c'est marrant parce que c'est vrai que ben, j'arrive pas à m'imaginer ma vie sans lui, tu vois. Me dire, mais qu'est-ce que je ferais si je rentre à la maison qu'il est pas là, tu vois. Et du coup, ben ouais, en fait, ma vie sans lui, j'ai du mal parce que, enfin, mamie dans 20 ans, 25 ans, ben, tu vois, j'espère juste qu'on sera encore ensemble, vivants, en fait, surtout, et qu'on, tu vois. Mais c'est, ça aurait été plus facile de répondre à cette question il y a 20 ans. Mais là, à 46 et 50, il en a 53, je me dis, ben, on sera bien loin, tu vois. Et ça fait bizarre, hein, quand même, hein. Donc, je me dis, ouais, dans, voilà. Mais en tout cas, je souhaite à tous les couples de vivre ce que je vis. Voilà, déjà.
Je passe à la question girly. Est-ce que tu
Vas-y,
as
vas-y.
une routine bien-être et sérénité?
Alors, déjà, alors, je dirais, mon mari et moi, comme on est croyants, du coup, notre rituel à nous, c'est de nous lever le matin. Et donc, on prend notre café. Et après, en fait, on prie ensemble. Donc, ça, c'est notre routine à tous les deux. Donc, on va prier pour nos enfants, pour notre futur, pour quelqu'un qu'on sait qui est malade ou des choses comme ça. Et après, on enchaîne la journée. Donc, voilà. Et puis après, j'ai un petit peu de mal de prendre du temps pour moi. Donc, tu vois, aller chez le coiffeur, pour moi, c'est. Enfin, pourtant, et du coup, j'ai choisi un coiffeur où j'y vais que tous les 6 mois. Parce qu'en fait, comme je fais des mèches, ben, c'est facile, en fait. C'est tous les 6 mois. J'ai un petit peu de mal parce qu'en fait, dès que je me lève et que j'ai passé ce temps avec mon chéri, et voilà, dans notre temps à nous. Ben, j'ai qu'une envie, c'est d'aller travailler. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. Et là, je dis j'aimerais m'inscrire à des cours de danse pour au moins avoir ce temps-là pour nous, pour moi. Mais je sais pas trop quand est-ce que je vais le mettre dans le planning, tu vois. Donc, je sais pas trop. Mais ouais, voilà, la première routine qu'on a, c'est ça, nous, sur la journée.
Ok.
Voilà. C'est pas très girly, peut-être, hein.
Tout est parfait.
Oh là là.
Est-ce que tu as un mantra ou une incantation qui t'inspire et que tu te répètes tous les jours?
Non, rien de particulier. Non. Non, j'ai rien de particulier qui me. Non. J'ai juste, quand j'ai des doutes ou je me dis, ah, mais de toute façon, Dieu connaît toutes choses, donc je m'inquiète pas.
Comment vois-tu les secrets d'Agapé d'ici 5 à 10 ans?
Oh là là. Ça, c'est compliqué parce que ici, il y a 5 ans, on m'avait posé la question, j'aurais dit, ben, j'aurais eu la petite boutique qui était toute petite à l'époque et voilà, je me serais qu'à rester là, tu vois. Mais je sais pas s'il faut que je rêve. Enfin, si je peux rêver grand, je pense. Je peux rêver grand. En fait, je voudrais vraiment, vraiment, vraiment que elle soit une référence, en fait. Mais pas tant au niveau, ok, de la robe de mariée en soi, tu vois. Mais, tu vois, qu'on soit vraiment perçus comme des expertes dans ce qu'on fait, dans notre vision, dans notre. Tu vois, si on pouvait même, je sais pas, faire du coaching en préparation de mariage, faire. Avoir. Tu sais, quelque chose de super large, mais qui touche toujours au mariage, tu vois. Voilà, maintenant, est-ce que. Oui, donc, ouais, c'est ça. Et puis, après, ouais, avoir une boutique beaucoup plus. Alors, grande, je sais pas, mais dans l'esprit, tu vois. Pas forcément cantonné qu'à la robe de mariée, mais quelque chose qui soit beaucoup plus loin, plus. Voilà, tu vois, après, mais avoir des lieux où on peut, je sais pas, t'as 4, 5 mariés qui se marient, et que, ben, on passe des temps ensemble à organiser leur mariage, ou à avoir des tips de quelqu'un qui intervienne et qui donne des petits conseils. Voilà, peut-être ça. Et sûrement d'autres cabines avec d'autres très, très belles marques, tu vois, des marques. Là, on rentre une marque de luxe. Et je me dis, ben, j'aimerais bien en avoir d'autres, tu vois. Donc, ça serait plutôt comme ça. Et en même temps, et tu vois, et à l'inverse, ne pas avoir que des marques de luxe, parce que je me dis, finalement, c'est pas le montant qui va définir la mariée agapée, en fait, qu'on appelle. C'est vraiment l'expérience qu'elle va vivre avec nous. Donc, on peut avoir des mariés petit budget, des mariés grand budget, mais avoir vraiment ce panel et avoir su, tu sais, bien cibler, c'est qui la mariée agapée. C'est plutôt dans là-dedans, tu vois. C'est... Donc, voilà.
Je sonne presque le clap de fin de cette interview avec le portrait. Alors, c'est tout simplement une description intuitive et bienveillante de mon invité du jour. Parce que se connecter et de se reconnecter les unes aux autres, c'est essentiel à mon sens. Et parce qu'apprendre à donner et recevoir, c'est la base de la réussite. Alors, c'est parti. Muriel reçoit ma perception. Muriel, je perçois de toi un bonbon sucré, un nuage de barbe à papa qui vient nous envelopper de douceur et de tendresse. Une fée comme celle de Cendrillon qui vient nous saupoudrer des derniers ingrédients avant de devenir une princesse pour la vie. Une âme chaleureuse et profondément aimante qui souhaite réaliser grâce à sa baguette magique tous nos rêves de jeune fille. Avec Muriel, c'est comme vivre un conte de fées tous les jours. Et si c'était ça en vrai la vie ?
C'est trop beau. Je prends. C'est génial.
Quelles sont les prochaines étapes pour les secrets d'Agapé ? Cette année vous réserve-t-elle des surprises ?
Oui, à partir de juillet, donc on rentre les robes de soirée. Du coup, voilà, donc ça c'est acté, c'est bon, c'est lancé. Et après, ça va être la prochaine étape surtout. Du coup, ça va nous demander des travaux supplémentaires pour préparer la cabine. Et après, j'aimerais bien... Ouais. Moi, je pense que c'est ça. Là, pour cette année, ça va être vraiment cette partie-là parce qu'il va falloir apprendre à communiquer et à travailler différemment. Donc, ça va être ça, la prochaine étape.
Ok, super. Voilà. Où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Alors, du coup, la boutique, elle est sur le Tampon. Donc là, on est au centre-ville, on n'est pas très loin de la mairie du Tampon. Et après, vous avez tous les réseaux sociaux, mais principalement Instagram. Là, on est sur Facebook aussi, mais principalement Instagram.
Est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose que nous n'aurions pas abordé pendant cet échange ?
Alors, juste un petit mot pour encourager un petit peu les femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Je crois qu'il y a... Je me dis, on sait au fond si on a envie de faire de l'entrepreneuriat déjà dans qui on est quelque part, on sait. Et en fait, quand bien même on le ferait et on se tromperait, je crois que c'est pas très important. Ce qui en ressort, c'est qu'est-ce qu'on va en faire. Le positif, c'est qu'est-ce qu'on va apprendre de ça, tu vois. Et je crois qu'il faut vraiment se dire que la peur, elle doit pas être un frein, mais juste un catalyseur, tu vois. C'est ce qui met le feu aux poudres. Parce que, et puis, de ne pas avoir peur de partager, en fait, ce qu'on fait, de pas avoir peur de dire, bah non, je garde mon projet, je le monte et après j'en parle. Parce que finalement, ok, il y a peut-être beaucoup de gens malveillants, ben, je sais pas, moi je me suis pas penchée là-dessus en fait, mais je sais juste que le fait d'en avoir parlé, ben, en fait à un moment donné je me suis dit ok, ben j'ai trop parlé en fait, il faut que je me lance et je peux pas revenir en arrière et je trouve ça canon et je trouve ça beau et même si on fait un projet 2 ans et qu'on change après, avant c'était une tare de changer de carrière, c'était un signe d'instabilité. Mais maintenant, il y a plein de femmes qui, à 30, 40 ans, décident de passer à autre chose. Et je trouve ça fabuleux, tu vois. Et je me dis, puis on a une façon d'aborder l'entrepreneuriat qui est différente des hommes. On a cette sensibilité. On a nos périodes dans le mois où on n'est pas en forme. Et ça joue aussi sur les prises de décision. Et tout ça, ben, je me dis, mais c'est juste canon, en fait. Cette richesse, cette sensibilité, tu sais, féminine qui permet d'aborder les problèmes ou les challenges de manière totalement différente d'un homme. Et puis on est des, je pense véritablement, tu vois, qu'on est des lionnes, tu vois, qui défendent leur territoire parce qu'elles ont un projet et qu'elles le défendent. Et en même temps, on est super douce parce qu'on a cette sensibilité qui est une force et finalement qui est une arme et qu'on a cette, et je dirais, ouais, même si on a envie de se lancer et qu'on n'est pas sûr, bah, mieux vaut tenter et avoir, bah, se dire, bah, écoute, c'est pas grave, je me suis plantée, que de se dire, j'aurais dû et que je l'ai jamais fait, en fait. Et je pense que ça, c'est hyper important pour les femmes. Mais après, voilà, je suis pas particulièrement féministe, tu vois, je défends pas la cause féminine en soi, mais je trouve ça super intéressant d'avoir cette richesse d'émotions, ce marasme émotionnel qu'on a en permanence, les femmes, tu vois, c'est un jour on va bien, puis le lendemain on est moins bien, mais on parle beaucoup, on rentre chez nous le soir, on a envie de tout raconter, alors que les hommes, ils rentrent chez eux, ils veulent pas en parler. Et tu vois, et en fait, je trouve ça tellement riche, en fait, et je trouve ça géant, en fait, de vivre ça. Il faut le faire. Il faut vraiment avoir. Et puis après, ben, de savoir qui on est. Et puis il y a des fois où on n'est peut-être pas entrepreneur, on est peut-être entrepreneur pour une saison. Mais en soi, on peut changer, on peut évoluer. Et je trouve ça génial, en fait. On a cette société maintenant qui nous donne cette chance, tu vois, de pouvoir. Se mouvoir parmi des différentes sphères professionnelles et je trouve ça géant, en fait. Donc, faut y aller, faut tenter.
Super, merci beaucoup Muriel pour cet échange et pour ta présence, ça me fait plaisir.
Mais merci à toi, j'ai été trop honorée quand on en a parlé, enfin quand Marie m'a dit, j'étais trop contente. Et voilà, donc en tout cas... Tu es la bienvenue à la boutique, tu sais. et pareil, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tout ça.
Merci.
Merci beaucoup, Muriel et Christelle, pour cet échange. J'ai vraiment adoré écouter Muriel. Ce qui m'a marqué déjà, où j'ai été hyper surpris, c'est quand Muriel a tout de suite évoqué les 5 langages de l'amour et comme quoi elle n'avait pas les mêmes langages de l'amour avec son mari. Je me suis dit, quelle lucidité sur les choses et en même temps, quelle générosité. Parce que même si elle n'avait pas les mêmes langages de l'amour que son mari, eh ben, ça lui fait plaisir d'aller sur son terrain parfois, notamment des services rendus et aussi des moments de qualité partagés pour faire plaisir à son mari. Et lui aussi va sur son terrain des cadeaux en lui faisant des cadeaux. Et j'ai trouvé le fait d'avoir à la fois la connaissance de ces outils-là et de les appliquer au quotidien pour se dire « Ok, l'autre personne, je l'aime, elle communique pas comme moi, mais je vais faire l'effort ». J'ai trouvé ça magnifique de générosité. Donc, merci beaucoup, Muriel, pour l'exemple d'incarner ça. Je trouve que ça donne vraiment envie de le faire au quotidien parce qu'on sait que d'autres personnes osent aussi s'ajuster et s'aimer de cette manière. Donc, merci beaucoup pour cet exemple-là. Outre les 5 langages de l'amour, j'ai énormément, ça m'a marqué, apprécié ce subtil mélange d'action et de lâcher prise chez Muriel. Lâcher prise parce qu'elle évoque souvent sa foi et le fait qu'elle fait confiance au divin et à la vie pour lui apporter les choses, notamment via les prières le matin. Et aussi, elle disait que voilà, la vie, Dieu connaît toutes choses et que si elle ne comprend pas tout de suite, il y a un plan global qui elle pense qu'elle qui va dans un sens harmonieux au niveau général et donc en même temps elle est dans ce lâcher prise et cette confiance dans la vie et en même temps elle est énormément dans l'action qu'on fait le fameux week-end où elle a entrepris de lancer son activité. Tout de suite elle a fait des recherches sur internet, ensuite elle est allée au salon du mariage à Paris. Ensuite, elle a préparé minutieusement son entreprise. Elle a contacté une personne qu'elle avait rencontrée avant. Donc, j'adore ce mélange de je vais de l'avant. C'est moi qui saisis mes opportunités et qui me crée mes cadeaux, comme dirait Jacques Brel. Faut se créer ses cadeaux. Et en plus, sur tout le reste qu'elle ne maîtrise pas, à certains moments, elle se dit là, j'ai fait tout mon travail et je m'en remets à la vie. Et j'ai trouvé ça magnifique d'avoir trouvé cet équilibre-là et de sentir au quotidien cette subtilité de savoir quand est-ce que je dois agir encore et me poser des questions et quand est-ce que je dois lâcher prise. Donc à nouveau, merci Muriel pour ça. Et ce qui m'a marqué, c'est donc Muriel a parlé maintenant un de ses challenges, c'est de réussir à ce que son équipe, qui est beaucoup plus nombreuse, arrive à bien échanger ensemble. Et ça m'a fait penser à un ami qui justement est coach pour entreprise et m'a parlé de la méthode Belbin, qui est une méthode en fait où qui présente, il y a différents profils selon cette méthode, et en fait c'est intéressant d'avoir une diversité de profils dans son entreprise, parce que chaque profil va apporter quelque chose de différent. Et donc si on manque d'un certain profil, ça peut nuire à notre performance collective. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans cette méthode, dans ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'à différentes étapes de vie de l'entreprise et des projets, surtout, c'est pas les mêmes profils qui vont être mis en avant. Par exemple, au début, c'est plutôt les gens créatifs dont on va avoir besoin, qu'ils créent des choses, qu'ils pensent, qu'ils réfléchissent à des alternatives nouvelles pour avoir des nouvelles possibilités. Et une fois qu'on a fait des choix, qu'on s'est dit « Ok, on choisit ce cap », là, ça va plutôt être des profils plus de planification, d'organisation, qui vont prendre le lead, parce que là, il faut mettre en place ce qu'on a décidé et acté ensemble. Donc ça, c'est vraiment un outil qui m'a l'air hyper intéressant à approfondir. Et je fais un petit coup de pub pour un ami, parce que j'adore ce qu'il fait et qui il est. Donc Thomas Vedrine, V-E-D-R-I-N-E. Son entreprise, c'est Envol et Rebond. Et notamment, il propose la méthode Belbin. Si jamais vous avez des questions sur la méthode Belbin ou sur le management en entreprise, n'hésitez pas à le contacter, parce que pour moi, c'est vraiment un cerveau en or et un cœur en or, les deux mélangés. Donc, je trouve ça magnifique. Donc, merci beaucoup Muriel et Christelle pour cet épisode qui était un peu différent des autres, j'ai trouvé, et qui m'a marqué par cet équilibre chez Muriel, cette volonté d'équilibre. Donc, merci énormément et exposez le cadre.
Pour celles qui seraient pressées de commencer, je vous ai défini les apprentissages de cet épisode en 3 points. Alors, c'est parti. En 1, définir sa vision et la partager à ses proches, à son équipe, à ses collègues pour aller dans la même direction. Se sentir soutenue et comprise dans ses choix. Ensemble, nous allons plus loin. Cette clarté de vision permet également une meilleure communication, de partager un langage commun ou du moins de comprendre les paroles de l'autre, puisque le cadre, le cap est posé et donné. En 2, agir avec soi et ne pas s'oublier. Est-ce que j'ai la paix dans mon cœur? Est-ce que ce que je suis en train de faire me rend heureuse ou est-ce que cela me crée des doutes? Être à l'écoute de son ressenti plutôt que de son mental. Mélissa, notre human designer, nous disait dans son épisode que le mental n'est pas le lieu de prise de décision, mais bien notre corps et nos organes. Ce centre étant propre à son profil, je vous encourage à foncer le découvrir. En 3, l'engagement envers soi et les autres. Qu'est-ce que je peux faire pour rester engagé dans ce qui me tient à cœur, dans ce qui m'anime, dans ce que j'aime ? S'engager publiquement, notamment dans des projets pro, et se challenger lorsque l'on se lance pour nous permettre de rester motivés et de se sentir soutenus, accompagnés. On continue d'avancer ensemble. Et voilà, j'espère que ces 3 points vous aideront à aller plus loin dans votre réflexion et dans votre remise en question. J'espère que cet épisode vous a plu. Laissez-nous une note sur 5 sur iTunes et Spotify pour nous faire grandir, pour faire connaître le podcast, et un commentaire bienveillant pour nous encourager. Et en attendant l'épisode prochain, tout en cœur, roulement de tambour, keep cool!